rozumią tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Juliette Rangeval.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe pour parler ce dimanche des Balkans. Les Balkans occidentaux où plane le spectre des années 90 sous les yeux d'une Union européenne qui paraît bien impuissante face à la montée des tensions nationalistes. La perspective de l'intégration paraît toujours lointaine. Les habitants de la région, eux, continuent de quitter leur pays. En quelle forme pourrait prendre un réengagement, un réinvestissement dans les Balkans à l'heure de la présidence française du Conseil de l'Union européenne? Nous en parlons avec nos invités. Jean-Arnaud Derrins, que nos auditeurs connaissent bien, spécialiste des Balkans, correspondant de RFI, co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Votre dernier livre paru, écrit avec Laurent Gélin, c'est « Là où se mêlent les eaux des Balkans au Caucase ». Dans l'Europe des confins et c'est publié aux éditions de La Découverte. Avec nous également Tefta Kelmendi, coordinatrice du programme Europe élargie de l'ICFR, c'est un think tank qui s'intéresse aux questions européennes. Belgzim Kamberi de l'Institut pour les politiques sociales Musine Kokalari en ligne de Pristina au Kosovo et Florent Marciac, vice-secrétaire général du Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe. Bonjour à tous. Jean-Arnaud Derrins, je m'adresse à vous pour commencer. Il y a aujourd'hui un dossier brûlant, c'est celui de la crise politique en Bosnie-Herzégovine, un dossier potentiellement dangereux, dit-on, dans les milieux diplomatiques à Paris, alors que ce dimanche, la Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie, fête son anniversaire. Elle le fait en ayant des velléités d'émancipation, voire de sécession de l'ensemble bosnien qui a été créé par les accords de Dayton, hein, qui ont ramené la paix dans la région en 1995. Pour vous, Jean-Arnaud, il y a véritablement danger aujourd'hui ?
Alors écoutez, oui, la Republika Srpska a un plan officiel de sécession qui notamment a été approuvé par les députés du Parlement de l'entité le 10 décembre. Donc on est sur des choses qui sont a priori très sérieuses. En même temps, je dirais que sur le fond, il n'y a rien de très nouveau sous le ciel de Bosnie-Herzégovine parce que ces revendications séparatistes des ethno-nationalistes serbes comme de leur... leurs alter-ego ethno-nationalistes croates de Bosnie-Herzégovine, c'est ce qui malheureusement structure la vie politique du pays depuis ces accords de paix de Dayton, donc depuis 26 ans déjà, enfin un peu plus de 25 ans. Donc rien de très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la totale incapacité de la communauté internationale à réagir à cette crise politique. C'est ça la grande nouveauté. En soi, les données de la crise en Bosnie-Herzégovine n'ont rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la faiblesse extrême de la communauté internationale. Pour prendre quelques exemples très concrets, aujourd'hui, ces éléments de la crise en Bosnie-Herzégovine sont anciens. On a toujours laissé filer les choses. On a quand même eu durant 12 années un haut représentant international qui n'a rigoureusement rien fait, Monsieur Inzko, qui était pour le coup un diplomate autrichien. Donc il n'y a véritablement rien de nouveau. Mais aujourd'hui, ces 25 années d'inaction, de passivité, on se retrouve à devoir en payer la facture et les risques sont bien réels, d'autant que l'Union européenne est particulièrement divisée sur le sujet, puisque certains États membres de l'Union européenne, comme la Hongrie, ont délibérément choisi de soutenir la carte mise en avant par les sécessionnistes serbes, par Milorad Dodik, pour, il y a aujourd'hui, je pense, une stratégie assez cohérente de la part de Budapest pour construire une sphère d'influence dans les Balkans. Et Budapest peut se livrer à cette politique-là parce que tout le monde laisse faire la Hongrie. C'est ça le fond du problème.
Tefta Kelmendi, vous partagez cette analyse? Vous pensez que l'Union européenne a quelque chose à faire aujourd'hui?
Alors oui, tout à fait, je partage cette opinion, mais juste pour reprendre, vous avez parlé d'une crise politique en Bosnie, je dirais qu'aujourd'hui on peut plutôt parler d'une crise sécuritaire pour la Bosnie, pour les Balkans occidentaux, mais aussi pour l'Europe et l'Union européenne. Effectivement, ce qui se passe en Bosnie n'est pas quelque chose qu'on voyait venir dans les Balkans, donc ce n'est pas une surprise pour les peuples des Balkans et pour les autres pays. Cela demande une action très rapide de la part de l'Union européenne. Mais c'est peut-être assez intéressant de parler de ce qui s'est passé exactement. C'est aussi une remontée, un retour de sentiments nationalistes et ethniques en général dans les Balkans qui ont été beaucoup intensifiés ces dernières années avec des dirigeants de certains pays des Balkans qui parlent des idées séparatistes, des idées dangereuses comme l'unification des peuples sur la base ethnique. Nous avons même le président serbe et son ministre de l'Intérieur qui parlent du monde de serbe. et de l'unification des Serbes politiquement et institutionnellement. Et cela, évidemment, peut aussi dire qu'il y aura, on peut parler après du monde albanais et vice-versa. Et ces idées-là, ce sont des idées dangereuses. Et l'Union européenne les a vues, les a entendues, mais n'a pas réagi, ne les a pas sanctionnées. Donc là-dessus, il faudra sanctionner les leaders qui partagent ces idées dangereuses, même dans les chaînes nationales de télévision.
Florent Marciac, est-ce que l'Europe peut passer ce test de crédibilité aujourd'hui que représentent les Balkans pour elle ?
Alors spécifiquement sur la Bosnie, c'est vrai qu'il y a un enjeu à très court terme, un enjeu sécuritaire effectivement avec cette crise politique et sécuritaire, mais la réponse elle est beaucoup plus à long terme, elle engage l'Union européenne à beaucoup plus long terme, et les problématiques que l'on retrouve dans les Balkans, que ce soit sur la Bosnie ou d'autres pays de la région, reflètent également les enjeux et les défis auxquels nous faisons face au sein de l'Union européenne. Le Brexit, le détricotement un petit peu aussi du droit européen, du régime européen, toutes ces tendances un petit peu nationalistes que l'on ressent et populistes que l'on ressent dans l'Union européenne, on les ressent également dans les Balkans. Donc en fait, l'enjeu, il n'est pas spécifique à ce que l'Union européenne trouve une solution pour les Balkans. Il faut que l'Union européenne réussisse à construire une vision pour l'Europe à laquelle puissent associer les pays de la région. Et cette vision doit répondre à la fois aux défis qui se posent à elle-même et puis aux défis hérités du passé également dans la région. Donc il n'y a pas vraiment de ligne de démarcation, je veux dire, sur un certain nombre de problèmes, simplement dans la région, parce que les États sont beaucoup plus fragiles, les répercussions sont plus grandes et les dangers, les risques sont plus gros.
Benksim Kamberi, vous êtes au Kosovo, à Pristina. Comment est-ce qu'on voit la situation chez vous ?
Pour revenir un peu, pour se rallier à ce qu'ont dit les discutants prédécesseurs, je pense que même au Kosovo, je pense que l'Union européenne commence de plus en plus à perdre sa crédibilité au sein de la population kosovare. Et ces frustrations sont aussi logiques parce que...
Pourquoi
donc, cette union. Parce que l'Union européenne, comme vous le savez probablement, enfin, c'était aussi le médiateur, enfin, le facilitateur, comment on peut l'appeler, du dialogue entre le Kosovo et la Serbie, premièrement. Et ce dialogue est dans une totale impasse depuis plusieurs années. Donc, il ne donne pas de résultats. Donc, premièrement, c'est une faiblesse qui est vue dans le sein de la population kosovare de l'Union européenne. Deuxièmement, il y a aussi cette question de la libéralisation des visas. Le Kosovo reste le seul pays de la région qui n'a toujours pas de régime de visa libéralisé. Donc, dans ce contexte, l'Union européenne perd sa crédibilité de plus en plus au sein de la population kosovare, pour ces deux raisons principalement, mais aussi, pas seulement ça, vous savez aussi qu'il y a 5 pays de l'Union européenne, toujours aujourd'hui, qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo, et ça évidemment c'est vu comme un manque d'une politique unique étrangère de l'Union européenne. Donc grosso modo, pour répondre à votre question, c'est que de plus en plus, donc on a une population qui malgré qui est très pro-occidentale, donc qui est très pro-européenne ou pro-américaine, enfin, quand vous voulez, elle perd de plus en plus donc, son europhilie parce que voilà, Bruxelles n'arrive pas donc, à avancer ses dossiers à travers le Kosovo. Mais moi, je voulais juste rajouter une petite chose sur ce qui a été dit précédemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste que cette crise de l'Union européenne, elle s'exprime plus dans la région. Parce que cette crise et cette faiblesse de l'Union européenne, enfin, pour moi, selon ma perspective, elle est là depuis 20 ans. Quand vous voyez les résultats de la Bosnie, comme on l'a expliqué depuis 20 ans, que la Bosnie est de fait bloquée. Je viens de parler sur les grandes lignes sur la question du Kosovo, ou alors dernièrement, une chose qui est très impressionnante, c'est ce qui s'est passé avec la Macédoine du Nord, avec le gouvernement actuel qui a joué le jeu de toutes les revendications de Bruxelles et de l'Union européenne jusqu'à changer le nom du pays, qui n'a rien reçu par l'Union européenne. Sans résultat et qui a été bloqué par la Bulgarie et l'Union européenne, de nouveau, n'a rien pu faire. Donc, grosso modo, pour moi, ce qui se passe actuellement dans les Balkans, c'est juste que c'est cette crise de l'Union européenne qui s'exprime plus, mais qui existe depuis longtemps, qui a une incapacité de, non seulement d'élargissement, mais aussi de régler les questions qui sont toujours actuelles dans les Balkans. Et évidemment que dans ce sens-là, ah ben alors, c'est, comme d'habitude, c'est la diplomatie américaine qui débarque parce que
Eh ben justement, justement, on voit les États-Unis faire leur retour dans la région. On va en parler avec notre envoyé spécial permanent à Washington, Guillaume Nodin. Guillaume, les États-Unis viennent de sanctionner le leader politique de la Republika Srpska, Milorad Dodik.
Oui, après des mois d'avertissements, voire de menaces, les États-Unis ont fini par joindre les actes à la parole. Milorad Dodik, 62 ans, qui passait il y a quelques années encore pour un modéré, a progressivement rejoint le camp nationaliste. Et c'est lui qui a poussé le Parlement de la République serbe de Bosnie à lancer le processus de retrait des institutions communes de Bosnie le 10 décembre dernier. Plusieurs domaines sont concernés, mais le principal, c'est la constitution d'une force armée autonome serbe. C'est une ligne rouge pour les Occidentaux et pour les États-Unis. Milorad Dodik est donc sanctionné financièrement. Les mesures punitives annoncées par le Trésor américain visent les activités corrompues, déstabilisatrices de Dodik, actuellement membre de la présidence collégiale de Bosnie, ainsi qu'une chaîne de télévision qui est sous son contrôle et dont le siège est à Banja Luka, chef-lieu de l'entité serbe. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis seront gelés et leur accès au système financier américain bloqué.
Guillaume, pourquoi est-ce qu'il y a cette pression américaine ?
Eh bien, avant tout pour sauver les accords de Dayton qui ont été négociés sous l'égide des États-Unis il y a plus de 25 ans. Dayton, c'est dans l'État de l'Ohio et c'est là, dans une base militaire, que les Américains ont quasiment enfermé les négociateurs, les composantes serbes donc, mais aussi croates et bosniaques, pour qu'ils mettent fin à une guerre ethnique qui a fait 100 000 morts il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, le nationalisme semble de retour dans la région et les Occidentaux veulent absolument éviter ce genre de conséquences désastreuses. D'ailleurs, pour une fois, avec sa décision de lancer ce qu'il faut bien appeler une sécession, Milorad Dodik n'a pas fait l'unanimité et ceux qui ont voté contre son projet disent clairement qu'ils voient mal comment ses objectifs pourraient être atteints sans recourir à la guerre.
L'action américaine, Guillaume, elle s'inscrit dans un cadre plus large.
Oui, il faut prendre un peu de recul. Les États-Unis connaissent un regain d'intérêt pour les Balkans avec la nomination de diplomates qui connaissent bien la région. D'ailleurs, ils parlent de Balkans occidentaux et pour eux, la perspective logique, c'est l'adhésion à terme des pays de la région à l'Union européenne. Or, cette perspective semble un peu bloquée à Bruxelles car plusieurs pays de l'Union n'y tiennent pas spécialement, voire ils sont carrément opposés. Résultat, comme la nature a horreur du vide, la Russie et la Chine gagnent en influence. La Russie et la Chine, ce sont les rivaux systémiques des États-Unis et pas seulement dans les Balkans. L'action américaine s'inscrit donc aussi dans ce cadre plus large.
Teftak El-Mendi, est-ce que cet intérêt géostratégique renouvelé des Américains pour ce dossier, c'est à cause justement de l'influence chinoise ou russe ?
On peut dire qu'effectivement, maintenant, c'est une question d'intérêt américain à protéger dans la région. Les États-Unis ont été présents dans la région et ont un historique de partenaires stratégiques qui a mis fin dans les années 90 des guerres et qui a mené une mission de paix et de stabilité dans les Balkans. Cette mission a été suivie par un investissement très important financier et diplomatique dans les Balkans pour continuer avec le développement post-conflit de ces pays-là et la construction des États et de la démocratie. Les États-Unis ont joué un rôle très important dans la solution d'un statut final pour le Kosovo. Ils ont soutenu l'indépendance du Kosovo et sa reconnaissance internationale. Et après cela, les États-Unis ont voulu donner le relais à l'Union européenne pour continuer tout ce travail avec sa politique d'élargissement qui devait intégrer ces pays-là et donc défendre le travail qui a été déjà fait. Ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne, malheureusement, n'a pas réussi à faire un travail pour empêcher le retour de nationalisme, la dégradation de la démocratie et de toutes les réformes qui ont été déjà faites, malgré des milliards d'investissements dans le processus d'intégration européenne. Et on se trouve aujourd'hui aussi dans un contexte géopolitique qui n'est pas le même de celui des années 90, avec la Russie et la Chine qui ont monté en puissance. Et d'ailleurs, la Chine n'était même pas présente dans les années 90 dans les Balkans. Et aujourd'hui, elle est présente avec des investissements dangereux qui menacent les valeurs européennes et tout le projet européen et le travail qui a été fait jusque-là. Donc les États-Unis ont un intérêt avec les Européens ensemble de trouver une approche transatlantique à se réengager dans les Balkans.
D'un point de vue diplomatique, mais aussi via l'OTAN ?
Alors oui, tout à fait. Le projet d'intégration de ces pays-là à l'OTAN a été défendu par les États-Unis, effectivement. Et il y a eu déjà l'Albanie qui a rejoint l'OTAN en 2009, puis le Monténégro en 2017 et la Macédoine du Nord en 2020. Ça, c'est un succès. Il faut continuer donc ce travail qui a été fait. C'est le moyen pour assurer que la sécurité de cette région-là. Et si on peut revenir aux sanctions sur la Bosnie, juste rapidement, c'est un très bon acte pris par les États-Unis qui devrait d'ailleurs être suivi par l'Union européenne également.
Florent Marciac, sur cette question des sanctions, c'est quelque chose que du côté des diplomates français, on aime à manier avec précaution en disant qu'il ne faudrait pas que M. Dodik puisse apparaître comme une victime aujourd'hui. Vous êtes... c'est difficile d'apprécier le bon niveau de sanctions ?
C'est toujours un petit peu compliqué quand on manie les sanctions. Les sanctions ont un pouvoir symbolique assez fort, c'est-à-dire qu'effectivement, si on ne fait rien et qu'on est perçu comme ne faisant rien, on contribue à la résolution des problèmes. Après, l'histoire montre et l'expérience montre qu'on ne résout pas les problèmes politiques et sécuritaires avec des sanctions uniquement. Et c'est d'autant plus le cas en Europe. Donc c'est vrai que c'est là faut un petit peu modérer nos ambitions, nos attentes vis-à-vis de l'impact des sanctions. Ce n'est pas les sanctions qui vont contribuer à faire partir M. Dodik et à réunifier la Bosnie-Herzégovine dans l'harmonie, si vous voulez. Donc ce qu'il faut derrière, c'est vraiment une vision un petit peu de clairvoyance, une vision un peu plus à long terme, un projet politique, et ça c'est la responsabilité de l'Union européenne de l'offrir. L'Union européenne, c'est un projet politique avant tout pour le continent. Dans l'histoire, c'est un projet politique qui a ramené ensemble des empires qui ont été déchus, que ce soit la France ou l'Allemagne après-guerre, ce sont des restes d'empires qui se sont effondrés, ou alors des satellites, vous voyez, de l'Union soviétique quand on parle de l'élargissement 2004. Donc c'est un projet politique qui unifie des États qui étaient un petit peu fragilisés vraiment en leur cœur. Donc il ne faut pas oublier cette mission de l'Union européenne qui n'est pas un club riche dans lequel les pays peuvent rentrer une fois qu'ils ont prospèrent et qu'ils sont parfaitement démocratiques, mais c'est une forme de refuge avec un projet politique de solidarité les uns avec les autres. Donc c'est un petit peu en faisant passer ce type de message qui se reflète à la fois au niveau de l'Union européenne sur le continent, mais également au sein des États, que l'on peut essayer de donner un sens à cette aspiration politique plutôt que simplement bloquer avec les sanctions. Oui.
On va voir comment concrètement l'Union européenne peut essayer de faire passer ce message dans les différents pays des Balkans.
Carrefour de l'Europe. Juliette Rangeval.
Et donc les Balkans, moins de 18 millions d'habitants aujourd'hui, hein, ils vont perdre encore peut-être 20% de leur population d'ici 20 ans. Les habitants de la région sont attirés par l'Allemagne, par l'Autriche, par l'Italie, mais aussi souvent ils ne se retrouvent pas dans les régimes qui sont en place chez eux, des régimes de stabilocratie, hein, qui assurent la stabilité. Donc il n'y a pas de conflit violent, mais il n'y a pas de démocratie non plus. Le géographe Michel Fouché disait à ce micro il y a quelques semaines, il ne faut pas laisser tomber les Balkans, mais leur importance stratégique est nulle aujourd'hui. L'influence chinoise, l'influence turque ou russe, ce sont des arguments pour accélérer les processus d'adhésion. Le risque, dit-il, c'est la marginalisation. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Arnaud Derrinse ?
Non, pas du tout. Je crois que c'est une formule qui ne veut pas dire grand-chose, malheureusement. Mais parce que l'intérêt géostratégique des Balkans, il a toujours existé. Donc ça c'est même pas la peine d'en discuter. Je voudrais revenir sur le fond des choses. Le problème, c'est qu'effectivement, que l'Union européenne a perdu sa crédibilité. Et donc la question, c'est pourquoi l'a-t-elle perdue ? Belgzim a donné une série d'exemples. Je pense qu'il faut aller au-delà. Vous évoquiez les stabilocraties à l'instant. Ça, on est au cœur du problème. C'est que durant 15 ans au moins pratiquement, l'Union européenne a fait le choix de soutenir des régimes de plus en plus autoritaires, de plus en plus corrompus, de plus en plus clientélistes, de plus en plus népotistes au nom de la stabilité. Je pense bien évidemment au régime serbe de M. Vucic, mais également au régime monténégrin de Milo Djukanovic qui pour le coup est tombé il y a un peu plus d'un an, mais également au régime albanais d'Edi Rama. Ce sont les mêmes types de régimes qui sont en place dans les Balkans et qui le sont avec la bénédiction de l'Union européenne parce que les dirigeants autoritaires de ces pays ont l'intelligence de se positionner comme étant formellement pro-européens. Et malheureusement, durant trop longtemps, les dirigeants européens ont accepté, se sont satisfaits, se sont contentés de ces déclarations de principe qui n'avaient aucune conséquence pratique quand on examinait la réalité des choses, l'indépendance de la justice, la liberté des médias ou le fonctionnement de manière générale de l'état de droit. Et c'est pour ces raisons-là que se passent deux choses. D'une part, que les citoyens de tous âges, de toutes conditions, de toute formation s'en vont, non seulement parce qu'ils ne voient pas d'avenir dans leur pays, pour eux, pour leur famille, mais parce qu'ils ont en plus acquis la conviction que, hélas, rien ne pourra jamais changer. C'est pour cela que les gens s'en vont massivement de tous les pays de la région, qu'ils soient déjà membres de l'Union européenne ou qu'ils ne le soient pas encore. Les gens s'en vont principalement, comme vous le disiez, pour l'Allemagne. Et puis l'autre conséquence, c'est que ces dirigeants autoritaires qui sont là, qui se croient inébranlables, immanquablement vont jouer la carte du nationalisme pour à un moment ou l'autre pour justifier leur propre position. Je m'inscris totalement en faux avec l'idée qu'il y aurait une montée ou un retour du nationalisme dans les Balkans. Non, il y a beaucoup plus de retour et de montée du nationalisme, hélas, en France que dans n'importe quel pays des Balkans. Par contre, il y a des dirigeants au pouvoir qui utilisent cette carte-là une fois de plus pour essayer de consolider leur système clientéliste, corrompu, népotiste de pouvoir. Mais pour parler très franchement, ce qui compte pour M. Vučić ou pour M. Dodik, ce n'est bien sûr pas la grandeur du peuple serbe, c'est le pognon, pour parler très concrètement. C'est le pognon et le pouvoir qui permet de garder le pognon. C'est ça aujourd'hui la vraie question, et on a hélas fait, au nom de cette logique stabilocratique, on a fait preuve durant des années d'une très très dangereuse, comment dire, connivence avec ces régimes, et on se retrouve aujourd'hui, eh bien voilà, à devoir payer un petit peu la facture de ces années d'inaction de politique européenne.
Le pognon, comme vous dites, Jean-Arnaud Derrins, l'instrument financier, ça c'est vraiment l'arme de l'Europe, hein, qui est le principal investisseur. Alors, Begzim Camberi, qu'est-ce qu'on pourrait attendre justement de l'Union européenne pour faire bouger un petit peu ces stabilocraties?
Premièrement, je pense que dans la situation actuelle, il reste beaucoup de carottes pour l'Union européenne, du moins. Pour moi, pour rejoindre un peu ce que vient de dire Jean-Arnaud, je pense que la crise, si on appelle ça aujourd'hui la crise balkanique aujourd'hui, c'est juste un reflet de la crise européenne. Donc si vous voyez toutes ces démocraties illibérales aujourd'hui qui font surface dans certains pays, donc quelqu'un a évoqué donc la politique de M. Orban, on voit que le paradoxe d'aujourd'hui, c'est que les voies européennes qui sont plus pour l'élargissement des Balkans, ce sont ces voies européennes qui, dans même l'Union européenne, sont les plus engagées contre le projet européen. Donc, pour les écouteurs français, donc, si vous voyez aujourd'hui, donc, tous les leaders politiques dans les Balkans qui font soi-disant remonter ce nationalisme, ils ont tous une pensée politique un peu qui est très proche, enfin, des idées de Éric Zemmour et de l'extrême droite française aujourd'hui. Donc, ce grand paradoxe aujourd'hui, c'est que dans l'Union européenne même, nous n'avons plus pas seulement de projet politique, mais nous n'avons plus de voie progressive dans l'Union européenne même sur la question des Balkans occidentaux. Donc, je pense que malheureusement aujourd'hui, moi personnellement, la seule chose qui, selon moi, peut faire bouger les choses, c'est que c'est cette ligne transatlantique avec une forte poussée de Washington avec l'Union européenne pour faire revenir le dossier européen dans les Balkans. Mais on l'a revu hier de nouveau, malheureusement, c'est que malgré qu'il y a eu donc ces sanctions envers Milorad Dodik en Bosnie, l'Union européenne hier n'a même pas réagi. Donc ça prouve de nouveau que pour le moment, donc cette ligne transatlantique entre Washington et Bruxelles ne fonctionne pas encore, malgré qu'elle était prévue avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Donc en général aujourd'hui, moi je ne vois pas beaucoup de carottes, ni de bâtons d'ailleurs, que l'Union européenne a pour changer les choses dans les Balkans. Et je pense que la situation n'est pas très optimiste de la perspective de Bruxelles.
Florent Marciac, vous estimez vous aussi que au-delà de la crise de l'Union européenne, au-delà de cette difficulté à mettre en place un lien transatlantique fort sur le dossier des Balkans, l'Union européenne a pas grand-chose à proposer très concrètement aux pays de la région?
Non, elle a des choses à proposer. Elle a vraiment des choses à proposer. C'est vrai que le contexte actuel les questions qui se posent dans le cadre de la conférence de Future Europe, mais bien au-delà, sur quel type de projet politique on souhaite bâtir avec l'Union européenne, est-ce qu'on souhaite une union politique, à quelle profondeur on la souhaite. C'est vrai que l'absence de réponse et la perception d'une certaine confusion profitent à un certain nombre d'acteurs dans la région qui utilisent, comme disait Jean-Arnaud Derrins, les éléments de langage de l'Union européenne pour se présenter comme pro-européen. Mais elle a des marges de manœuvre. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de blocages qui ont un très grand écho dans les Balkans, ce sont des blocages qui sont réalisés par des États membres. Donc le cas de la Bulgarie vis-à-vis de la Macédoine du Nord, avant c'était la Grèce. On a les pays, les cinq pays États membres qui n'ont pas reconnu le Kosovo, qui se placent également dans cette position-là. Donc un certain nombre de problèmes ne viennent pas de la région. Ils viennent d'un manque de cohésion des membres des États membres de l'Union européenne. Donc c'est un aspect dont la responsabilité nous revient entièrement. C'est la première chose. La deuxième chose, comme levier qui est inexploité, ou du moins qui n'est pas suffisamment exploité, c'est les forces de société civile, les mouvements dans la région, et le soutien que l'Union européenne peut apporter. C'est vrai que l'Union européenne, c'est un projet qui a été bâti par les élites. C'est un projet top-down, donc qui vient du haut, qui va. Mais on voit les limites de cette approche-là. Et dans la région, plus encore que dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, existe une forme de démocratie, d'engagement civil, civique, très fort pour combattre ce type de régime. Donc, quel soutien peut-on leur apporter? Les Européens, on ne sait pas trop sur quel pied danser quand on voit des mouvements sociaux. Ce n'est pas vraiment dans l'ADN de l'Union européenne, mais ça, il faudrait l'apprendre davantage. Il faudrait davantage s'engager en ce sens-là et peut-être prendre exemple sur d'autres types de diplomatie, par exemple la diplomatie canadienne, qui ont des formes d'engagement diplomatique sur le sol, donc sur vraiment aux côtés de forces civiques, pour un petit peu montrer comment on se positionne.
On va y revenir. En attendant, il y a beaucoup d'impatience hein, aujourd'hui au sein des sociétés civiles, avec un désir profond donc de rejoindre tout de même ce bloc européen, même si Belksim Kamberi, vous nous l'avez dit, il y a beaucoup de désillusions du côté kosovar, par exemple. Je vous propose d'écouter le reportage de Louis Seyé à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, sur ce désir d'Europe.
Moi, j'ai une image positive de l'Union européenne. En fait, on fait vraiment tout pour être comme les autres pays d'Europe. Mais je pense qu'on en est encore vraiment, vraiment loin.
Comme Ismet, c'est vers l'Europe que la plupart des jeunes de Sarajevo tournent leur regard. À 18 ans, cet étudiant en droit est persuadé que son pays a tout à gagner en adhérant à l'Union européenne.
J'aimerais vraiment que la Bosnie devienne membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Je pense que ça pourra élargir notre horizon. On pourrait avoir une meilleure éducation, de meilleurs emplois, de meilleurs salaires. Mais voilà, on est là.
Candidat potentiel depuis 2003, la Bosnie-Herzégovine a officiellement déposé sa candidature à l'UE en 2016. Beaucoup de Bosniens voient dans cette adhésion, encore très lointaine, une solution pour tourner la page des tensions communautaires qui divisent le pays depuis presque 30 ans, depuis la fin de la guerre. C'est ce qu'espère Esmeralda, une jeune maman de 32 ans.
Ce serait vraiment mieux d'être membre de l'Union européenne, parce qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre ici. Et ça, on réglera une bonne partie si on intègre cette Union européenne. Mais le fait qu'on attende depuis 20 ans déjà, ça en dit long. Tant qu'on reste les uns contre les autres, là un Bosniaque, ici un Croate, là un Serbe, on n'ira jamais dans l'Union européenne. On doit être unis, on doit penser à nos enfants. Nous ne devons pas nous détester. Ce qui s'est passé il y a 26 ans, c'est du passé. C'est pour ces enfants qu'il faut qu'on soit ensemble maintenant, pour qu'on entre enfin dans cette Union européenne.
Mais ces dernières années, l'image de l'Union européenne s'est considérablement dégradée dans les Balkans occidentaux. La Macédoine du Nord a notamment vu sa candidature bloquée par plusieurs vétos, des refus qui ont suscité incompréhension et une forte déception. La politologue bosnienne Ivana Maric.
La situation est vraiment différente d'un pays à l'autre. Je peux comprendre qu'en Macédoine du Nord, les gens soient vraiment déçus parce qu'ils ont changé le nom de leur pays et ils n'ont pas obtenu l'ouverture des négociations. Mais ici, en Bosnie-Herzégovine, je ne vois pas pourquoi nous serions déçus. Nos élites n'ont rien fait. En 2019, l'Union européenne nous a posé 14 conditions et nous n'en avons rempli aucune. Donc nous devrions plutôt être mécontents de nos politiciens. La première réforme que demande l'Union européenne, c'est celle de l'état de droit. Et nos politiques n'aiment pas ça. Car avec le renforcement de l'état de droit, ils seront les premiers à aller en prison.
Depuis la fin de la guerre en 1995, les discours nationalistes des dirigeants politiques continuent d'alimenter les divisions entre Bosniaques, Serbes et Croates. Une rhétorique haineuse qui déstabilise un état déjà fragile et qui permet surtout à la classe politique de garder la main sur les richesses du pays. La Bosnie-Herzégovine est l'un des pays les plus corrompus et inégalitaires d'Europe.
Le problème, c'est que les diplomates de l'Union européenne s'attendaient à ce que nos politiciens évoluent. Quand en discutant avec eux, ils se sentent gênés, soient obligés de changer. Mais ils n'ont rien fait et ne changeront pas, parce que ce ne sont pas des politiciens, ce sont des criminels. Donc l'Union européenne doit soutenir notre système judiciaire, les commissions électorales et les politiciens qui veulent vraiment le changement. Ils n'ont pas besoin de discuter avec des décideurs politiques qui ont montré qu'ils ne voulaient rien de bon pour ce pays et ses citoyens.
Un reportage de Louis Seyé à Sarajevo. Jean-Arnaud Derrins, tout à l'heure, Florent Marciac nous disait aider les sociétés civiles avec un soft power, peut-être à la canadienne. La politologue bosnienne qui était interviewée par Louis dans ce reportage disait qu'il y avait des choses à faire pour renforcer l'état de droit dans les pays de la région. Qu'est-ce que peut faire l'Union européenne et qu'est-ce que peut faire peut-être la France qui préside le Conseil de l'UE pour 6 mois pour aider justement à renforcer cet état de droit?
Alors écoutez, je crois qu'il faut être très modeste et ne pas imaginer que ni que la France ait des compétences très importantes avec cette présidence, qui tout de même une fonction essentiellement formelle.
Hein. Oui, d'organisation du calendrier.
D'organisation, voilà, ça ne donne pas de pouvoir effectif, pratique. Et d'une manière générale, il ne faut pas non plus surestimer les capacités de l'Union européenne, puisque malheureusement, le bilan des 2 dernières décennies est extrêmement limité, malgré les moyens financiers colossaux qui ont été engloutis. Je crois qu'il faudrait déjà, tout simplement, que la France, pour parler d'elle, soit un petit peu cohérente. Par exemple, qu'elle s'engage clairement en faveur de l'intégration, de la relance du processus d'intégration de tous les pays des Balkans occidentaux. On sait que c'est le président Macron qui avait opposé le veto de la France à l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord il y a un peu plus de 2 ans, ou il y a 3 ans même. Ce veto a ensuite été retiré, mais il faudrait que la France clarifie sa position sur le sujet. De même, il faudrait que la France prenne une position en faveur de la levée de la libéralisation des visas pour les ressortissants du Kosovo. Ces deux points, pour le coup, n'ont rien d'extravagant. Ils font partie du programme de la nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne. Je crois, si on voulait, pour parler, évoquer ce fameux axe Paris-Berlin, je crois qu'il serait bon, pour commencer, que la France ait une position aussi cohérente sur des sujets symboliques mais très importants, aussi clairs que celle de l'Allemagne. Ensuite, de manière générale, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire? Je crois qu'il y a deux aspects de la situation. Il y a le verre à demi-plein, le verre à demi-vide. La partie la plus pleine du verre, la partie la plus positive, c'est que dans ces sociétés civiles des Balkans, malgré le phénomène de l'exode qui affaiblit directement ces sociétés civiles, bien sûr, malgré ce lien, il y a énormément de gens qui se mobilisent. Il y a de nouvelles mobilisations, notamment pour l'environnement. Alors l'environnement, c'est un terme très large, mais fondamentalement qu'il s'agisse des mobilisations pour la qualité de l'air, contre la privatisation des rivières sauvages au nom de projets souvent fumeux de micro-centrales. C'est en réalité une lutte pour la défense des communs, des biens communs qui aujourd'hui fédèrent énormément de gens dans les Balkans, de tous âges, de toute origine sociale et de toute origine nationale. Les seules mobilisations au Kosovo où l'on ait vu défiler ensemble des Albanais et des Serbes ces dernières décennies, ce sont des mobilisations contre des projets de micro-hydrocentrales sur des rivières sauvages de l'ouest du Kosovo. Donc là, il y a une dynamique tout à fait nouvelle et il serait bon que l'Union européenne, je dirais, fasse le job, tout simplement, en rappelant quels sont les principes de l'état de droit, quels sont les principes auxquels elle est attachée en termes de liberté de la presse, d'indépendance de la justice. Ça, c'est un message qu'il faudrait envoyer avec beaucoup de force, beaucoup de clarté aux dirigeants des pays des Balkans, à Belgrade comme aux autres, et en étant cohérent sur le fait que même si on essaye de développer des projets économiques, ça ne remet pas en cause cette indépendance de ces règles de l'état de droit, de ces règles démocratiques sur lesquelles l'Union européenne ne peut en aucun cas transiger. Et puis que dans le même temps, l'Union européenne donne la parole à ces forces nouvelles, à ces voix nouvelles qui émergent dans toutes les sociétés civiles des Balkans. J'ai parlé des luttes environnementales, on pourrait également parler des luttes féministes qui sont très importantes. Il y a eu plusieurs vagues de mouvements qui ont secoué les Balkans. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la réalité des sociétés balkaniques, très éloignées finalement de cette image noire de Balkans toujours bloquée dans le nationalisme, que certains essaient de répandre avec une certaine forme de complaisance pour justifier le fait qu'on laisse la région à l'écart, pour justifier en réalité, je dirais, l'inaction générale.
τα δύο σου χέρια μια ανάσα. Σαν δροσέρι χαρά βγήκαν έλα ζάχαρη και μέντα και γλυκόφιλη. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για ζέμη με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκανία, Δύση και Ανατολή.
D'ici qui, Anatolie, Carrefour de l'Europe, consacré à la situation dans les Balkans ce dimanche. Avec nos invités, Jean-Arnaud Derain, spécialiste des Balkans, correspondant à RFI, Tefta Kelmendi de l'ICFR, Belgzim Kamberi de l'Institut pour les politiques sociales Moussine Kokalari de Pristina et Florent Marciac, vice-secrétaire général du Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe. Les Balkans testent de crédibilité pour l'Europe. La perspective de l'élargissement semble toujours lointaine. Et si on ne peut pas adhérer à l'UE, eh bien si on ne peut rien changer dans son pays, ni à travers un parti, ni un syndicat ou grâce aux médias, alors on s'en va. Laurent Rouy, à Belgrade.
Les exemples sont nombreux. D'abord, il y a des villages qui se vident avec des maisons à vendre qui se délabrent. Mais on va voir aussi cette migration en ville, dans les services publics, dans les hôpitaux. Il manque des soignants, surtout des spécialistes. Et du coup, certains services sont en sous-effectif, ce qui fait que les patients doivent attendre des mois pour se soigner. Dans les écoles aussi, il y a des classes, voire des établissements qui ferment. C'est le cas de certaines écoles primaires en Bosnie. J'en ai même vu une transformée en maison de retraite. Alors vous imaginez, c'est symboliquement lourd à porter pour les habitants.
Alors, ça, ce sont les cas les plus visibles, Laurent, mais est-ce qu'on en parle ?
Tout à fait. Dans les universités, notamment dans certaines filières, un bon tiers des étudiants ne cache pas son désir de partir. À Tuzla, en Bosnie, c'était juste avant le Covid, en juin 2019. Les étudiants d'université avaient défilé avec des portraits d'Angela Merkel et en criant « Angela, attends-nous, on arrive ». Pour ces étudiants, il n'est même pas question de tenter de trouver un emploi dans leur pays d'origine. Alors l'autre groupe qui parle beaucoup des migrations, ce sont les politiciens. Les dirigeants disent vouloir ralentir cette migration, faire revenir ceux qui sont partis. Par exemple, en Croatie, le Premier ministre Andrej Plenković a annoncé fin décembre une prime pouvant aller jusqu'à 26 000 euros pour les Croates qui rentreraient. En Serbie, le président Aleksandar Vučić propose des primes pour inciter des jeunes femmes à rester et à devenir maman. Ce que cette classe politique refuse de voir, c'est qu'elle est souvent décrite comme l'une des causes de cette migration.
Laurent, justement, quelles sont les causes, comme vous dites, les raisons évoquées par les candidats au départ ?
Alors d'abord, il y a une raison culturelle. Les migrations sont anciennes dans les Balkans. Dans les années 60, le régime socialiste de Tito autorisait les migrations économiques. Un grand nombre de Yougoslaves sont partis et envoyaient des devises au pays, faisant ainsi tourner l'économie. Cette politique a concerné énormément de monde et ce, sur plusieurs décennies. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'après la désintégration de la Yougoslavie, est arrivée au pouvoir une génération de dirigeants nationalistes et surtout corrompus et clientélistes. Et donc, le débat politique dans tous les Balkans est centrée sur l'identité ethnique, avec en toile de fond une impossibilité pour les acteurs économiques de travailler dans des conditions normales, sauf s'ils font allégeance au pouvoir. Ajoutez à cela, et c'est sans doute le phénomène le plus récent, l'abandon de fait de la région par l'Union européenne, et vous avez en quelque sorte le dernier espoir qui s'éteint. Et bien, que reste-t-il ? Le départ vers des horizons meilleurs.
Laurent Rouy sur RFI. Florent Marciac, l'adhésion à l'Union européenne, alors ça peut être une perspective qui donne envie de rester ou pas, parce que finalement on se rend compte que par exemple un pays comme la Croatie qui a rejoint l'UE en 2013 continue à se vider de ses habitants.
Il faut regarder les choses comme elles sont et pas nécessairement comme on pense qu'elles pourraient l'être. En Croatie, avant l'adhésion à l'Union européenne, il y avait 10 000 personnes qui quittaient le pays par an, en grande partie pour l'Union européenne. Après l'adhésion, il y en avait 30 000. Donc effectivement, l'adhésion n'est pas un frein à la mobilité. Il faut comprendre que le projet européen en tant que tel promeut cette mobilité. Ça fait partie du projet européen de bouger d'un pays à l'autre, d'échanger, de bâtir différentes loyautés et des familles composées de façon très multiethnique. Donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN de l'Union européenne, il ne faut pas en avoir peur nécessairement. Maintenant, c'est vrai qu'il peut, sous certaines conditions, il peut y avoir des abus, des excès. Alors, du côté négatif, dans la région, si trop de personnes partent en même temps, les seuls qui restent, ce sont les vieux, les vieilles personnes et les personnes qui touchent des primes des partis. Alors forcément, en termes de projection sur l'avenir, ce n'est pas un pays dans lequel les personnes vont vouloir rester. Pour nous également, c'est un élément qui peut faire peur au moment d'élection. Donc c'est quelque chose qui est facilement brandi comme cela. Mais il faut rappeler un petit peu la logique européenne derrière. Ça appartient à ce projet européen au final. Donc il faut compter avec ça.
Maxime Corbéry, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Union européenne, malgré tout, trouve un moyen de compenser tous ces départs des pays des Balkans ? Je m'explique, quand toutes ces personnes, qui sont en général des personnes formées, viennent travailler dans des pays de l'Union européenne, c'est un terrible manque à gagner pour les pays de la région. Certains suggèrent qu'il y ait des compensations, peut-être à travers des projets d'infrastructure, mais pas que, peut-être à travers des sommes qui seraient versées. Ça vous paraît être une solution possible, une piste envisageable ?
Premièrement, je voudrais juste dire que la différence entre l'immigration qu'il y avait auparavant et aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus seulement les chômeurs, ceux qui n'ont pas d'emploi, qui partent. Aujourd'hui, ce sont de plus en plus aussi les classes moyennes, des gens qui avaient un emploi. Donc, des gens formés, donc ça veut dire que la différence, c'est que ceci démontre un peu toute la situation et les politiques qui ont été menées aussi par l'Union européenne et par les pays même, les gouvernants des pays balkaniques depuis 30 ans, une politique qui a, premièrement, qui a totalement dévasté toutes les politiques sociales. Quand vous voyez, une des raisons pourquoi les gens partent aujourd'hui, et surtout ces classes moyennes, c'est le manque de sécurité sociale, c'est que le manque d'un avenir plus sûr sur des politiques de retraite, de pension. Donc tout ça, ça démontre que premièrement, il y avait donc toujours cette pensée un peu néolibérale de politique en travers des Balkans, premièrement. Et puis deuxièmement, pour répondre un peu à votre question, moi je pense qu'il faudrait peut-être faire d'autres programmes, ce serait peut-être pas seulement des programmes d'investissement sur les infrastructures comme contrepartie, mais des programmes où l'Union européenne, en collaboration avec les gouvernements balkaniques, mettrait en œuvre des programmes comme quoi cette diaspora pourrait donc investir son talent, son énergie, et pas seulement son argent. Parce qu'on voit très bien qu'il n'y a pas de tel programme pour mettre en œuvre un peu cette énergie et ces formations, ce talent, compris les diasporas balkaniques dans les pays européens. Et je pense qu'il faudrait peut-être voir dans ce sens-là, comment mobiliser, comment capitaliser la formation, les capacités que ces diasporas balkaniques ont créées dans ces pays européens. Je pense que ce serait un des paradigmes qui pourrait être prévu, parce que voilà, l'exode ne va pas s'arrêter, c'est bien clair, on le voit dans tous les pays. Et puis troisièmement, je voudrais juste terminer sur ça, je pense que si cet exode aujourd'hui s'accroît de plus en plus, c'est ce manque de perspective et de vide. Ça fait quand même 30 ans que le bloc socialiste, le bloc de l'Est s'est désintégré. Et les gens, aujourd'hui, malgré qu'ils ont cru dans les années 2000 qu'il y aurait une perspective pour leur pays respectif, aujourd'hui, il y a ce sentiment de désillusion. Donc, c'est une situation de vide. Et tant qu'il y aura ce vide, on revient sur la discussion du départ. Tant qu'il n'y aura pas de vraie perspective, donc communautaire pour les citoyens des Balkans, je pense que l'exode va s'accroître. Donc c'est pour ça, c'est que ce ne sont plus, comme je l'ai dit, ce ne sont plus seulement des gens qui n'ont pas d'emploi qui passent, ce sont de plus en plus des classes moyennes et des gens qui ont une situation un peu normale de vie ici, mais qui ne voient pas de perspective à long terme, quoi.
Et pourtant, dans ces sociétés balkaniques, Jean-Arnaud Derrins le mentionnait hein, tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de façons de s'impliquer dans la vie locale, à travers par exemple la préoccupation pour l'environnement ou la lutte pour l'égalité hommes-femmes, sont souvent des mouvements urbains, des mouvements de femmes assez jeunes. Je vous propose d'écouter Natalia Simovic du mouvement citoyen née d'Avimo Beograd. Nous l'avons rencontrée lors de son récent passage à Paris.
Les sujets environnementaux viennent tous du terrain. Ça n'a pas été imposé, il n'y a pas d'influence étrangère, comme cela pourrait être le cas, par exemple, avec les sujets de justice sociale. À l'origine, ici, il y a la mise en péril des modes de vie. Cela a commencé avec les combats autour des rivières, parce que les gens n'avaient plus accès à l'eau, ne pouvaient plus irriguer leurs champs, nourrir leur bétail, plus largement avec tous les problèmes de biodiversité. Au-delà de la question des rivières, il y a celle du développement urbain, avec la réduction des espaces verts, la déforestation, alors qu'aujourd'hui la Serbie a l'un des airs les plus pollués du monde. Parce que nous vivons dans un État où la liberté de la presse a complètement disparu, nous sommes très présents auprès des communautés, au niveau des luttes citoyennes, parce qu'il n'y a pas moyen de faire campagne autrement. La prochaine étape, ce sont les élections. Nous sommes pleins d'espoir, parce que d'après les sondages d'intention de vote, nous avons déjà doublé nos soutiens. Nous avons 10 fois plus de membres qu'en 2019. Il y a un véritable élan. Nous sommes heureux que les citoyens ordinaires que nous sommes puissent porter des luttes locales dans l'arène politique au plus haut niveau.
Les élections sont les élections en Serbie en avril prochain. Est-ce qu'aider ces mouvements citoyens à vraiment prendre d'assaut l'arène politique, c'est ça le message d'espoir, Florent Marciac ?
C'est effectivement un des éléments. C'est un élément, il y a effectivement également une dimension générationnelle dans les Balkans, avec des nouvelles générations d'activistes qui arrivent maintenant aux rênes de partis, qui arrivent maintenant à certaines responsabilités au niveau local, qui bientôt graviront les ailes. Donc c'est un élément sur lequel on peut être très, très positif. Mais ça ne nous dédouane pas de notre propre travail. Vous voyez, les Balkans au final, les Balkans occidentaux et les Balkans en général avec les voisins qui font parfois problème, qui sont membres de l'Union européenne, c'est une région en Europe, c'est une enclave en Europe. Donc il faut bien comprendre cela et se comprendre qu'un petit peu le sens du projet européen, eh bien, il se porte également vers cette région-là. Donc on a également un autre travail à faire de notre côté pour essayer de redonner un petit peu de souffle à ces idéaux européens qui se définissent en particulier à l'encontre des visions nationalistes, ethnicistes et territoriales qui peuvent également prévaloir dans nos pays, en France et dans d'autres pays par lesquels on peut être tenté. Le projet européen, c'est une réponse à cela, c'est un contre-projet, il prend tout son sens dans la région. Il n'y a pas de région plus propice, vous voyez, à l'expression de ce projet que dans cette région balkanique. Et si l'Union européenne ne parvient pas à le traduire dans les faits dans la région, à quelle influence peut-elle aspirer au niveau global, sachant que la région, ouais, c'est une région en Europe avec une grande partie de la population qui lui est acquise.
Et ça a été l'une des priorités affichées par le président Emmanuel Macron pour cette présidence française du Conseil de l'UE avec un sommet sur les Balkans qui est prévu pour juin 2022. Carrefour de l'Europe à la réalisation, Ludivine Amado. Merci à nos invités, Jean-Arnaud Derrin, spécialiste des Balkans, correspondant de RFI et co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans, à Tefta Kelmendi, coordinatrice du programme Europe élargie de l'ICFR, à Belgzim Kamberi, l'Institut pour les politique sociale, Moussine Kokalari en ligne de Pristina au Kosovo et à Florent Marciac, vice-secrétaire général du Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe. Le podcast de l'émission est disponible sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Frédéric Lebel. À bientôt. Géopolitique.